Nous allons faire trois lectures, trois courtes lectures. La première dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 13. Ces versets que nous allons lire nous montrent que notre vie ne nous appartient pas. Même si nous devons faire des choix, notre vie ne nous appartient pas. Jacques, chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27, c'est un petit peu la même chose qui est dite. Proverbe 27, verset 1er. Proverbe 27, j'allais dire évangile des proverbes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans les proverbes. Proverbe 27, verset 1er. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Et la troisième lecture dans l'Ecclésiaste, juste après, dans l'Ecclésiaste au chapitre 12, il y a tout un enseignement adressé aux jeunes, aux jeunes hommes. Viens donc. Est-ce que c'est bien d'être jeune? D'avoir 25 ans, est-ce que c'est bien? Hein? Oui, c'est bien. C'est une bénédiction d'être jeune. Dans l'Ecclésiaste, on ne va pas tout lire. On va lire du verset 1er au verset 4 pour commencer. Jeune homme, on pourrait mettre jeune fille aussi. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Sans Dieu, bien entendu. Mais, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, etc. Au verset 8, avant que le cordon d'argent se détache, il fait allusion à la perte de la vie. Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, quatre fois dans ce texte, nous avons une exhortation que Dieu adresse à tous les hommes. Souviens-toi de ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. C'est le titre de ma prédication. Souviens-toi de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Oui, notre vie, elle est là, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on va vivre combien de temps? Hein, combien de temps? Quand on est jeune, la mort, c'est tellement loin. Si j'arrive à 90 ans, mais vous rendez compte, les gens, ils ont l'impression qu'ils vont vivre toute une éternité. Mais nous ne devons pas nous vanter du lendemain, parce que nous ne savons pas ce qu'il peut inventer. J'ai lu ce matin sur le journal qu'il y avait un militaire hier qui s'est fait assassiner à Londres. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bah, ce gars, quand il s'est levé le matin, il ne savait certainement pas que quelques heures après, il allait se faire assassiner. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Était-il prêt? Avait-il donné son cœur au Seigneur? Dieu l'avait-il prévenu avant? Je n'en sais rien. Ce qui nous prouve des milliers de fois par jour que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Notre vie ne nous appartient pas. Et Dieu, qui nous connaît, sait comment nous parler. Et il dit dans ce texte, et dans les trois textes que nous avons lus, et dans d'autres textes de la Bible, avant que. Il y a un proverbe français qui dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce proverbe? Est-ce qu'il est biblique? Est-ce qu'il est biblique, ce proverbe? Non, il n'est pas biblique. Nous sommes là sous le regard de Dieu, nous sommes là dans la parole de Dieu, nous sommes soucieux de connaître la doctrine biblique. C'est quand même important qu'au-delà de ce qu'un homme peut dire, il y ait la doctrine biblique. Et la Bible dit qu'il viendra un temps, il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est écrit. Et vous le voyez aujourd'hui, avec par exemple le mariage pour tous, vous avez vu tout ce qui a été dit comme mânerie autour de ce sujet. C'est impressionnant, même au niveau des églises, ce qui a été dit sur ce sujet. Ce qui vous prouve qu'on est loin de la saine doctrine, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour vous dire que les gens sont dans la confusion et n'arrivent pas à connaître Dieu parce qu'on les égare de la saine doctrine. Il est dit dans Timothée, « Les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des fables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. » Voyez ? Nous sommes dans un monde compliqué. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve qu'on est dans un monde compliqué. Tout change. Un matin vous vous levez, ça a changé, les choses ont changé. C'est impressionnant, on remet tout en question, on conteste tout. Je ne sais pas si vous voyez le jeu des journalistes, quand ils ont affaire même aux hommes politiques, la façon dont ils sont capables de tout contester avec des questions pour provoquer du trouble, etc. Enfin, on est dans un monde complètement perdu. Mais Dieu, lui, ne change pas. La preuve, c'est qu'on vient de lire un texte qui a été écrit il y a 3000 ans. Où Dieu nous demande de nous souvenir de lui avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi de ton Créateur. Vous voyez que les choses de Dieu ne changent pas du tout. Ça a été écrit il y a 3000 ans et vous êtes toujours d'accord avec cette affaire. Souviens-toi de ton Créateur. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien, moi les choses de Dieu, donc ça ne me concerne pas. » Mais il y a des commandements, c'est vrai, qui s'adressent aux chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi ? Les commandements, on voit bien qu'ils ont de la valeur à partir du moment où l'on devient chrétien. Mais il y a des commandements qui s'adressent à tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Quand il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, est-ce que Dieu est le Dieu de tous les hommes ? Oui, il n'est pas le Père de tous les hommes, mais il est le Dieu de tous les hommes. Ce texte s'adresse à tous les hommes. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Laissez-moi vous dire que ce commandement vous est adressé, souviens-toi de ton Créateur. Parce que moi, je vois des gens, ah, mais monsieur Hugo, mais moi, vous savez, je ne suis pas chrétien, ça ne me concerne pas. Eh bien, c'est faux. Dieu s'adresse à l'Église, on le voit dans les Épîtres, mais il y a des commandements qui s'adressent à tous les hommes. Et je crois que nous sommes dans un monde tellement compliqué. Cela nous prouve que le Seigneur Jésus va bientôt venir nous chercher. On dit c'est la pollution de la planète, on dit ceci, on dit cela. Moi je crois que c'est le monde, le cœur de l'homme qui est mauvais. L'autre jour j'écoutais sur France Info une émission où il disait qu'au niveau de la pollution, on parlait de la pollution, c'était très intéressant en plus. Au niveau de la pollution, il était trop tard, c'était trop tard pour revenir en arrière, c'était trop tard. Qu'on était dans un cycle où ça ne pourrait que se dégrader. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous font réfléchir. Et la question que je vous pose ce soir, c'est pour votre vie avec Dieu, qu'est-ce que vous faites de la voix de Dieu ? Est-ce qu'un jour, ça ne sera pas trop tard ? Comme je le disais mardi, il y a des gens, ou dimanche, en enfer, il y a des gens qui doivent dire, mais pourquoi j'ai méprisé les choses de Dieu ? Pourquoi je n'ai pas pris attention à ces choses qu'on partage dans les églises ? Quand Dieu dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui. Ce soir, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Peut-être imparfaitement, mais quand même, vous pouvez entendre la voix de Dieu qui vous montre que vous devez vous occuper du salut de votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Quand il est dit, par exemple, maintenant, c'est le jour du salut, aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est bien la preuve qu'il faut prendre ces choses en considération. Nous avons tous connu des gens, en tous les cas, moi, Dieu a permis que je connaisse beaucoup de personnes qui sont mortes. Je me rappelle... Je parlais tout à l'heure de mon témoignage quand je travaillais en boîte de nuit. Un an après, j'ai voulu voir le patron parce que je passais devant chez lui. Je me suis dit, tiens, tu vas aller le voir pour lui dire bonjour. Et je lui ai demandé des nouvelles de ce qu'on appelle, vous savez, des piliers de bar. Vous savez, ceux qui sont toujours au bar, qui boivent. Et je lui ai dit, des nouvelles d'un tel. Il m'a dit, tu sais pas, les piliers du bar, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Vous savez, ils boivent. Et puis, ils prenaient la voiture. À l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Les gens conduisaient comme des fous. Il m'a dit, Gérard, les piliers du bar, ils sont tous morts. Et c'est des gars, bien sûr, à qui j'avais parlé, puisqu'ils étaient là quand je me suis converti. Donc, ils étaient tout le temps là. Ils entendaient peut-être pas tous bien, mais une chose est sûre, je leur ai parlé. Et on doit prendre... Et peut-être que Dieu a permis que je vive ces choses pour que, sachant que je serai pasteur, je sois sérieux avec ce sujet qui nous préoccupe ce soir. On en a parlé il y a 15 jours au culte, cet homme qui a voulu mettre sa vie en ordre. Vous vous rappelez ? Le mauvais riche, il a voulu mettre sa vie en ordre. Est-ce que vous vous rappelez ? Mais qu'est-ce que, où c'était quand il a voulu mettre sa vie en ordre? Comment? C'était trop tard. On le voit, il est dans le lieu de tourment, il lève les yeux vers Dieu, il prie, il supplie, il veut même évangéliser. Et toutes ces choses bien, il les fait trop tard, donc il les fait pour rien. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui doit arriver pour des millions de gens. Après leur mort, ils doivent dire « Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi ». Mais écoutez, ces choses-là sont d'une gravité totale. C'est sur la terre qu'on doit se préparer à rencontrer Dieu. Lorsque Jésus a guéri un jour un paralytique qu'on a fait descendre par le toit, Jésus, avant de le guérir physiquement, l'a sauvé spirituellement. Et a dit à cet homme « Tes péchés sont pardonnés ». Alors les gens qui étaient là autour étaient scandalisés. Mais qui est-il pour pardonner? Ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, mais sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est sur la terre qu'il faut régler cette affaire. C'est la raison primordiale pour laquelle Dieu a créé l'Église, les Églises, quelles que soient les dénominations, pour qu'on prêche l'importance de se préparer avant qu'il ne soit trop tard. C'est extraordinaire de prier. Il prie, il supplie Dieu. Mais ça ne sert plus à rien. C'est Jésus qui parle, qui l'enseigne. Comme quoi, il doit y avoir un enfer, un tourment pas possible lorsque les gens se retrouvent alors qu'ils n'ont pas voulu prendre au sérieux ces choses parce qu'ils ne les voyaient pas, parce que les gens autour de nous sont incrédules, parce que nous sommes dans un pays païen, même si on dit qu'il y a 80% de catholiques. Tout ça, c'est... On a peut-être catholicisé le pays, mais je peux vous le dire qu'on ne l'a pas évangélisé. Et c'est vrai ce que je vous dis. Le problème, c'est est-ce que vraiment je me suis préparé à rencontrer Dieu? On pourrait prendre quelques exemples. Les vierges folles. Vous avez lu l'histoire des vierges folles. Qu'est-ce qu'elles font? C'est des filles qui représentent des chrétiens qui vont à la rencontre de l'époux. Est-ce que c'est bon signe, ça? Oui, c'est bien. Elles veulent aller à la rencontre de l'époux. Elles partent avec de l'huile, mais elles n'ont pas compris qu'il faut des réserves. Et c'est vrai qu'il faut des réserves. C'est pour ça que Dieu nous demande de lire la Bible, de prier, d'avoir une bonne vie d'église. Ça contribue à ce que l'huile, là, qu'on le veuille ou non, c'est comme si on mettait un peu d'huile dans notre lampe. Quand vous lisez la Bible, quand vous priez, c'est spirituel, mais vous mettez de l'huile dans votre lampe. Et voilà, et elles sont parties pensant que ce qu'elles avaient décidé, elles... ça suffirait. Mais il y a des gens, oh, ben on verra bien si Dieu existe, Dieu est bon, on s'en sortira toujours. Vous voyez, c'est ça, on part, voilà, oh, ben si Dieu est bon, eh ben on verra après, si c'est vrai tout ça, s'il est bon, on lui demandera pardon après. C'est de la folie. Parce que je le répète, c'est sur la terre qu'on se prépare à rencontrer Dieu. La preuve, c'est que quand ces vierges sont arrivées devant la porte, c'était trop tard. La porte était fermée. C'est Jésus qui a donné cette prophétie. On dit la parabole des dix vierges, mais moi je ne dis pas que c'est une parabole, c'est une prophétie, parce que c'est exactement ce qui va arriver. Il y a des gens qui sont fous. Il n'a pas dit les vierges négligentes ou les vierges superficielles, il a dit des vierges folles, parce que c'est de la folie que de ne pas se préparer à vouloir rencontrer Dieu. C'est de la folie que de dire oh, on verra bien. Vous voyez, pourtant, ce n'étaient pas des impies, elles, ce n'étaient pas des païennes. C'était des chrétiennes qui se sont tolérées d'avoir juste un petit peu d'huile. Et avec Dieu, il ne faut pas un petit peu, il faut des réserves. Il faut des réserves. Il y en a qui le font avec l'argent. Il y a des gens, ils ont des réserves d'argent. S'ils avaient autant de réserves d'huile qu'ils ont d'argent, eh bien, ils seraient pris, je vous le dis. Lorsque Noé a construit l'arche, est-ce que c'était bien que Noé construise une arche? Oui. Dieu préparait le monde à un déluge, de la même manière qu'aujourd'hui, le monde va vers la colère de Dieu. Je peux vous dire qu'on ne va pas vers des temps faciles. Le monde va vers la colère de Dieu, mais il y a une arche, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les chrétiens qui, ensemble, eh bien, composent l'arche de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a créé une arche qui est l'Église. Et l'arche, je crois que ça a duré une centaine d'années, la construction de l'arche, et tout le monde se moquait de Noé. Pourtant, il priait à l'époque, quand vous lisez. Tiens, on va le lire, tiens, on va y aller, dans Genèse. Regardez avec moi. Lunettes. Genèse chapitre 7. Dans Genèse chapitre 7, moi, il y a un verset qui m'a toujours étonné, c'est au verset 26 du chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 26. À la fin, regardez, il y avait de la religion du temps de Noé. Puisqu'il est dit, la fin du verset 26, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, dont les gens priaient. Les gens priaient du temps de Noé. À quoi ça leur a servi? À rien. La preuve, c'est qu'il n'y en avait aucun de prêt. Par contre, Noé a fait ce que Dieu lui a demandé, et un jour, il est dit au verset 7, 16 du chapitre 7, Genèse chapitre 7, verset 16, « Il en entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'est pas les hommes qui vont choisir quand est-ce que l'Église va s'achever. C'est Dieu lui-même qui fera que l'Église, en un clin d'œil, soit enlevée. C'est écrit. Et je ne sais pas si les gens ont fait attention, parce que ça ne s'est pas passé de suite, le déluge. Il y a eu 7 jours où il n'a pas plu. Mais une chose avait changé, la porte était fermée. Et qu'il pleuve ou qu'il pleuve plus, les hommes, en vérité, ne pouvaient plus rentrer dans l'arche. C'était trop tard. Et voyez, ces choses ont été écrites pour que l'on réfléchisse. Vous savez que Jésus a dit « Je suis la porte ». Et cette porte fermée nous montre qu'un jour, on ne pourra plus rentrer dans le royaume de Dieu, que la grâce n'existera plus. Ce sont des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de considération. C'est pour ça que la conversion, on en parlait tout à l'heure avec une jeune fille, la conversion, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas dire, ah, moi maintenant, ah, je suis plus catholique, je suis évangélique, ou je suis plus évangélique, je suis baptiste. On entend ça, mais ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y a déjà, ils ont changé de religion, mais ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Et ça, c'est une affaire sévère. On a un prospectus que j'aime beaucoup. On l'a multiplié des milliers et des milliers de fois, on l'a distribué à je ne sais pas combien de milliers de personnes. C'est le film de votre vie. Vous l'avez lu, ce petit prospectus? Est-ce que vous trouvez qu'il est bien? Ne me contrariez pas. Est-ce qu'il est bien, ce prospectus? Ah bon, c'est bien. Alors, il y a plusieurs photos. Un petit, alors, je l'ai marqué. Un petit enfant qui est en train de jouer, et il y a écrit « Trop jeune pour y penser ». Pensez à l'éternité. Puis après, on voit un jeune homme sur sa moto, une Suzuki 650, trop sûr de lui, trop sûr de lui pour y penser. Ouais. Puis après, on le voit à côté d'une jeune fille, hein. Il va se marier, voilà. C'est pour le mariage, c'est pour le mois d'août, quelque chose comme ça. Il est écrit « trop heureux pour y penser ». Après, on le retrouve dans les affaires, il est là, accaparé par les affaires, trop occupé pour y penser. Puis après, on le trouve penché sur son bureau, le front plissé, trop soucieux pour y penser. Puis après, on le retrouve, il est vieux, il est là, il est malheureux, il est dans le passé, trop vieux pour y penser. Et puis on voit une tombe où il est écrit « Trop tard pour y penser ». Moi, je trouve que ce prospectus, il est très bien fait parce qu'il exprime ce que les gens font aujourd'hui. Vous voyez, quand on est jeune, « Oh, moi j'ai le temps, je me convertirai quand je serai vieux », etc. Et puis, moi j'ai remarqué que les vieux, ce n'est pas péjoratif, mais souvent les vieux, ils se sont tellement endurcis, ils ont tellement vécu de choses difficiles qu'ils ne croient plus au pardon, ils sont endurcis, et quand vous leur parlez de pardon de Dieu, ils n'y croient plus. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et si Dieu dit, souviens-toi de ton Créateur, ça veut dire, pensez-y. Ce soir, est-ce que Dieu savait que vous viendriez ce soir? Est-ce que Dieu le savait? Oui, Dieu savait qui serait ce soir dans ce lieu. Dieu vous aime. Il a donné sa vie au calvaire en Jésus-Christ. Il est mort sur le bois de la croix pour vous donner la vie éternelle. Car la vie éternelle, ce n'est pas une religion qui peut vous l'accorder. Ce n'est pas un pasteur, un curé qui peut vous donner la vie éternelle. Ce n'est pas la doctrine d'une église qui peut vous donner la vie éternelle. Ce n'est pas un papier, un registre dans un registre de baptême qui peut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est accepter Jésus comme sauveur. C'est lui dire, Seigneur, je comprends que je suis perdu, je comprends que je suis un pécheur, je comprends que sans toi, je suis damné, et je veux véritablement que tu me sauves pour l'éternité. Et c'est ça, lever les yeux. C'est dire, Seigneur, je te demande, je cherche une solution ailleurs que sur la terre. Levez les yeux parce que ne marchez pas en sortant et dire, oh, je vais faire ce que M. Goua dit, on ne va pas tous marcher le nez en l'air. Ce n'est pas ça que ça veut dire, lever les yeux. Lever les yeux, ça veut dire que spirituellement, je cherche la solution ailleurs que sur la terre. Que la solution, elle n'est pas sur la terre. La solution, elle n'est pas dans les églises. Même si on a besoin d'une église, la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est mort pour cela. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment faire pour aller au ciel? On le voit, c'est un jour, c'est Philippe qui a dit à Jésus, mais quand Jésus a dit qu'il allait remonter au ciel, il dit, mais comment faire? Comment faire? Comment un homme peut-il aller de la terre au ciel? Et c'est là que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et vous savez ce qu'il a dit? Qu'avant de mourir, il a dit qu'il ressusciterait et qu'il reviendrait nous chercher. Alors ferez-vous partie de ces gens bénis? Si on avait le temps, on pourrait lire le jugement des nations où le Seigneur parle de ceux qui seront bénis et le Seigneur parle de ceux qui seront maudits. Ces deux mots, déjà, ils font vraiment réfléchir. Bon, si on parle de bénédiction, ça nous met tous bien à l'aise. C'est pas vrai? Si je vous dis, béni soit le Seigneur, béni, soyez béni. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous dis, soyez béni? Ça vous fait du bien ou ça vous fait du mal? Si je vous dis, soyez maudit. Moi, l'autre fois, j'étais chez quelqu'un, c'est une situation compliquée, et il y a une personne qui a dit, oh, celui-là, je le maudis. Déjà, dans la bouche d'un homme, c'est rien un homme, d'une femme, qui dit, je le maudis. C'est déjà un mot qui est désagréable. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand Dieu dit, Dieu dira à des hommes, retirez-vous dans le feu éternel, vous qui êtes maudits. C'est des paroles terribles. Quand on voit que tout l'évangile consiste à bénir les gens, à sauver les gens, quand on voit tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il fait encore, et pourtant ce même Dieu qui dit « Venez à moi, soyez bénis, je veux vous sauver, je veux vous guérir », on voit qu'un jour viendra où tous ceux qui auront refusé, à la place d'entendre « Soyez bénis », comme c'est le cas ce soir, eh bien, ils entendront « Retirez-vous de moi, maudits ». Vous le lirez, c'est dans Matthieu 25, ça vaut la peine d'être lu. Parce que je sais combien il est important de réfléchir sur certains mots dans la parole de Dieu. C'est ce que j'enseigne aux pasteurs en formation. Et ne vous moquez pas. Dites, mais monsieur Gou, vous parlez d'une histoire, vous avez dit 3000 ans, l'Ecclésiaste, vous avez parlé dans l'Épître de Jacques, ça fait 2000 ans. Mais monsieur Gou, si, ça ne sert à rien. L'apôtre Pierre a dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. Et si vous faites partie justement de ceux qui se sont moqués de Dieu ou de ceux qui ne sont pas intéressés aux choses de Dieu, rappelez-vous que Dieu ne tarde pas, mais qu'il use de patience. Ce n'est pas une bénédiction, ça? Les gens qui vont être sauvés au dernier moment, laissez-moi vous dire qu'ils vont remercier Dieu pour sa patience infinie. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus, parce que des fois c'est limite. Vous vous rappelez le brigand sur la croix? Il a fait une prière. Vous vous rappelez la prière qu'il a faite? Souviens-toi de moi. Il n'a pas osé faire une prière beaucoup plus profonde. Je ne sais pas enfin, dans quel état il allait mourir. Mais en fait, c'est quand vous allez mourir, c'est quand même un moment où il vaut mieux être prêt. Et cet homme sur la croix, en train de regarder les souffrances du Sauveur, qui va réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il va dire, souviens-toi de moi. Et vous connaissez la réponse de Jésus, que son nom soit béni. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais s'il avait attendu demi-heure, imaginez, est-ce qu'il peut être mort demi-heure après? Est-ce qu'il est mort cet homme? Oui. Bon, est-ce qu'il aurait pu mourir demi-heure après, trois quarts d'heure? C'est fort probable. Ça aurait pu être trop tard. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez comme quoi il y a des prières, il ne faut pas attendre. Bon, vous allez me dire, mais lui on le sait, il le savait qu'il allait mourir. Mais nous, nous ne savons pas. Qui sait qui? Bien sûr, on peut dire, tiens, demain, on peut faire ceci, on va travailler dans une autre entreprise, je vais travailler ici, je vais travailler là, j'irai en voyage, à la Réunion, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, j'en sais rien. Mais on devrait dire, Seigneur, si tu veux. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, si tu veux. Cet homme, il fallait qu'il nous fasse comprendre que c'est important de le faire quand il est temps. Vous savez, cette femme qui avait la perte de sang, on pourrait prendre plein d'exemples, qui était extrêmement épuisée, si elle avait attendu demi-heure, elle aurait pu attendre, j'y vais pas, le Seigneur y passe, qu'est-ce que je fais? Elle aurait pu attendre, demi-heure, une heure, un jour, ça aurait pu être trop tard. Et ce soir, vous pouvez dire, mais quand même, ce soir, Seigneur, tu me parles, cette prédication, je ne sais pas, c'est pour moi. Je ne veux pas dire que vous allez mourir demain, mais quand même, il faut que tu veux me sauver, tu veux me bénir, tu veux que je me souvienne de toi. Peut-être que pour le moment, Dieu, c'est que le Créateur, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas votre Sauveur, ce n'est pas votre Père. Mais ce Créateur va devenir votre Sauveur, et ce Sauveur va devenir votre Père. Et même si vous améliorez votre communion, ce Père peut devenir votre ami. Ça peut aller très loin, cette affaire. Mais Souvenez-vous de votre Dieu. Souvenez-vous de votre Créateur. Il a créé les cieux et la terre. Vous pouvez regarder les fleurs. Ce soir, peut-être, vous allez voir un reportage sur la création. Vous allez dire, oh, c'est sûr, il y a un Créateur. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut que le Créateur devienne votre Père. Et si vous acceptez Jésus-Christ, votre Créateur deviendra votre Père. Souviens-toi de ton Créateur avant que tu ne retournes à la poussière. Alors on va fermer les yeux tout simplement. Hein. Peut-être que quelqu'un dit, oui, je veux prendre une Bible. J'ai jamais lu la Bible, eh bien je vais me mettre à la lire. Je veux faire les choses sérieusement, consciencieusement. Eh bien tout à l'heure, si vous n'avez pas de Bible, on vous la donnera. Mais j'aimerais compris, simplement, qu'on se recueille et que vous puissiez dire amen à ma prière si vous êtes d'accord. Notre Père, notre Dieu, si le monde n'arrête pas de changer, toi, tu ne changes pas. Et ce que tu disais il y a 3000 ans, tu le dis encore aujourd'hui parce que tu dis la vérité. Seigneur, tu savais qui viendrait ce soir dans ce lieu partager ta parole. Alors, nous voulons véritablement être sérieux avec ce que nous avons partagé et nous souvenir de toi, afin que non seulement tu sois dans nos cœurs le grand Créateur du ciel, mais que tu sois notre Père céleste. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de nous prévenir, merci pour chacun de tes avertissements, pour chacune de tes promesses. Nous croyons à ce jugement qui va venir fondre sur la terre et nous croyons que tous ceux qui t'ont accepté sont sauvés de la colère. Alors Seigneur, je te prie pour ces amis qui sont là, pour ceux qui sont en train de découvrir ta parole. Mon Dieu, révèle-toi. Révèle-toi par la croix. Révèle-toi par chacune de tes promesses. Mais Seigneur, que personne ne passe à côté de ce que tu as préparé pour lui. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur, que ce soir plusieurs puissent vraiment te donner leur cœur et obtenir cette joie que toi seul, Seigneur, es capable de donner à un homme lorsqu'il se tourne vers toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.